Mrs. Ross? You will go home to the house of duty. Mrs. Martin, vous pouvez remercier le message de ce matin de m'être tiré du premier livre des Nombres, chapitre 4, verset 9 et 10. Il y a la lecture, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes en grâce. Et nous te bénissons pour ce privilège que nous avons d'être là ce matin. Nous disons qu'ils sont plus au ciel, nos bénévoles aussi qui participent à ce qui est dans la zone. Mais Seigneur, nous te disons notre connaissance. Nous avons rassemblé autour de ta part. Quand il y a toujours des bonnes choses à nous dire, et on doit nous souvenir que ta parole donne la vie. C'est-à-dire que l'écoute de ta parole ce matin augmente pour nous la vie divine à travers le corps. Seigneur, merci. Merci, Saint-Esprit, de toucher nos vies sur la terre à travers l'écoute de ta parole, de la parole de Dieu. Merci, Saint-Esprit, de nous guider nos cœurs, de nous rendre attentifs à écouter ta parole. Seigneur, merci. Merci de parler à travers ton nom, mon serviteur, afin de construire la vie de la communauté. Dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Donc, 1 Chroniques, chapitre 4, verset 9 à 10. Nous allons au nom du Seigneur. Jaébeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébeth en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaébeth invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Amen. Jaébeth, cet homme, donc nommé Jaébeth, son histoire ne prend que deux versets dans la Bible. Mais elle est puissante, cette histoire, puissante d'inspiration sur la manière dont Dieu peut changer la vie d'une personne ou sur la base de la prière. La prière, voilà l'activité à laquelle Jaébeth s'est livré. La prière, voilà donc une activité qui change le destin et le cours des événements dans la vie, dans l'histoire d'une personne. Au milieu de toutes ces personnes anonymes que cite le premier livre des chroniques, il s'agit des généalogies, des noms, Jaébeth sort comme du lot. On ne se souvient de lui, on ne se souvient pas de lui, pardon, à cause de grands exploits, mais à cause d'une prière. Vous voyez, il n'a pas gagné une bataille quelconque ou construit de grands monuments. Il a fait tout simplement une prière, du milieu de toute une liste de noms. C'est lui, en quelque sorte, qui est mis en évidence à cause de sa prière. Dans sa prière, Jahvet donc a invoqué l'Éternel. Il a voulu que l'Éternel se manifeste, qu'il ne se cache plus, mais au contraire, que Dieu, en quelque sorte, devienne évident dans sa façon d'opérer, qu'il enlève un point de mystère sur sa personne. On peut le remarquer assez facilement. Jahvet demande à l'Éternel quatre choses. Quatre choses à telle enseigne que cette prière est appelée les quatre requêtes de Jahvet. Que l'Éternel le bénisse, qu'il étende ses limites, ses territoires, que la main de l'Éternel soit avec lui et enfin qu'il le préserve du malheur en sorte que la souffrance s'éloigne. S'éloigne de lui. Alors, si tu me bénis, la version française courante dit « Accorde-moi ta bénédiction ». C'est pour dire que le « si » en réalité n'est pas du tout une condition. « Accorde-moi ta bénédiction ». La nouvelle Bible second « Donne-moi ta bénédiction ». La version le semeur s'exprime, elle, en termes de réalité que l'on désire, en quelque sorte, toucher du doigt. Elle dit, si tu me bénis réellement, comme pour dire, je veux quelque chose de concret, de réel et pas d'approximatif. Et il y a une autre version aussi qui parle en termes de supplication. Veille! L'Éternel me bénit, en quelque sorte, bénis-moi, s'il te plaît. Une autre version fait allusion, elle, à l'abondance, avec l'idée de la notion de quantité. Elle dit, si tu me bénissais abondamment, je veux recevoir de mon Dieu, en quelque sorte, une quantité énorme de bénédiction. Alors, qu'est-ce que ce personnage biblique nommé Jahvet demander à l'Éternel quand il parlait de bénédiction. C'est quoi la bénédiction? On entend souvent les chrétiens parler de bénédiction et Deutéronome 28 est un chapitre par excellence qui parle de bénédiction. Et Deutéronome 28 évoque justement la bénédiction de celui qui obéit à la volonté de Dieu. C'est quoi la bénédiction? La première fois que le mot bénédiction est mentionné dans la Bible, c'est Genèse chapitre 1, verset 22, à la suite de la création de l'homme et de la femme. Il est béni, multipliez-vous et soyez féconds et remplissez la terre, dit l'Éternel. Il les avait donc revêtus ainsi de ce qu'on appelle un manteau de bénédiction. Selon l'Ancien Testament, la bénédiction est la traduction d'un mot hébreu, beraka, beraka ou baraka. Et selon le Nouveau Testament, la bénédiction est la traduction du mot grec eulogia, eulogia, qui a donné le prénom éloge en français. Si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle éloge, ça veut dire bénédiction. Ceci dit, en hébreu, Beraka, comme en grec théologia, la bénédiction dans la Bible va au-delà de sa signification en latin. Benedictus, en latin, signifie dire du bien. Dans ce sens, en latin, bénédiction n'est qu'un souhait. Un souhait. Autrement dit, un vœu. Cependant, dans la pensée biblique, vous voyez que lorsque Dieu prononce des bénédictions, il ne s'agit pas de choix, il ne s'agit pas de vœux, il s'agit d'une réalité concrète. Dans la pensée biblique, la bénédiction va donc beaucoup plus loin qu'un souhait, beaucoup plus loin qu'un but. Bibliquement parlant, que ce soit en grec ou en hébreu, la bénédiction contient en quelque sorte trois idées. Premièrement, la bénédiction contient l'idée de doter, l'idée de donner à quelqu'un, de doter quelqu'un d'une force ou d'une puissance, d'une force spirituelle qui presque le condamne à réussir dans tout ce qu'il entreprend. Béni par Dieu, un tel individu ne peut que réussir dans ses entreprises puisqu'il a été revêtu d'un manteau spirituel qui le condamne au succès, qui le condamne à la réussite. Que l'Éternel puisse revêtir dans quelqu'un ce matin d'un manteau spirituel qui le condamne à la réussite. Lorsque Dieu pose sur toi ce manteau, cela t'apporte des compétences, cela t'apporte des aptitudes que tu ne possédais pas naturellement. Souvenons-nous d'un certain Bézalel que l'Éternel avait revêtu de ce manteau en vue de la construction du temple. Il avait reçu de Dieu à travers ce manteau des compétences qu'il ne possédait pas auparavant. Quand ce manteau est sur toi, ça devient en quelque sorte pour toi une obligation de réussir. Et c'est ce que Jabez demandait. L'Éternel, couvre-moi de ce manteau spirituel qui me permettra de faire clairement et nettement la différence. Deuxièmement, la bénédiction en grec, tout comme en hébreu, est une manière de faire appel de façon manifeste à la faveur et à la bonté de Dieu dans la vie d'un individu. Que celui qui reçoit une telle bénédiction réalise d'abord lui-même que Dieu est bon pour lui. Et que les autres aussi autour de lui voient cela de façon à s'exclamer qu'il est réellement béni de Dieu. Lorsqu'Israël est sorti de sa captivité en Babylone, le peuple, justement, a vu la main de Dieu sous forme de bénédiction. Et le psalmiste, au psaume 126, le verset 1 à 6, il est dit, « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » C'est-à-dire qu'ils n'en revenaient pas. Non seulement leur bouche était remplie de cris de joie, mais tout autour d'eux, tous les peuples autour d'eux disaient aussi l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Eux-mêmes reconnaissaient que Dieu les avait bénis en accomplissant les grandes choses pour eux, mais autour d'eux, les gens aussi reconnaissaient que l'Éternel avait fait pour eux de grandes choses. Le peuple pouvait constater et autour d'eux, les autres aussi faisaient le même constat. Troisièmement, la bénédiction, donc toujours en grec et en hébreu, signifie appeler et attacher à la vie d'un homme ou à la vie d'un groupe d'hommes l'épanouissement et la maturité. C'est par exemple le cas d'Abraham, notre père dans la foi. Dans ce sens, la bénédiction peut toucher une personne ou un groupe de personnes. Quand la bénédiction est présente et qu'elle s'attache à vous, il y a l'épanouissement, il y a la croissance dans le sens même du développement, de la maturité, dans le sens de la progression continue. Il y a deux vérités à prendre en compte au sujet de la bénédiction. D'abord, chaque fois qu'il y a bénédiction, on remarque un changement au niveau de la qualité de vie. La vie éternelle que Jésus-Christ est venu nous accorder, ce n'est pas seulement une vie pour après la mort, ce n'est pas une vie que pour le paradis, mais c'est aussi une vie pour maintenant, mais une vie de qualité. Chaque fois qu'il y a bénédiction, on remarque justement un changement au niveau de la qualité de vie, parce qu'il s'agit Mais la vie éternelle, à la bénédiction se rattache toujours une qualité de vie qui va au-delà du matériel. Le matériel, pardon, peut faire partie de la bénédiction, mais la bénédiction va bien au-delà du matériel. Ensuite, chaque fois qu'il y a bénédiction, il y a évidence. Il y a évidence. Ce n'est jamais caché. Jabez a dit « si tu me bénis ». Ainsi, il demandait à l'Éternel quatre choses. Une qualité de vie qui soit manifeste. Deuxièmement, l'épanouissement. Troisième chose qu'il sollicitait auprès de Dieu, c'est le développement, la maturité. Accorde-moi la maturité afin que je progresse dans ce que je fais. Et la dernière chose, enfin, ce sont des résultats positifs, satisfaisants et valorisants dans toutes mes entreprises. Je prie, frères et sœurs, pour chacun de nous, ce matin, que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous accorde à chacun une qualité de vie qui soit manifeste. Accorde à chacun de nous l'épanouissement, Seigneur notre Dieu. Accorde à chacun de nous la maturité spirituelle et enfin, des résultats escomptés dans ce que nous entreprenons. La bénédiction divine, frères et sœurs, est une réalité à deux visages. Elle se fait en parole ou par des formules, ce que l'on prononce, que Dieu te bénisse et te garde, ainsi de suite, mais elle produit toujours des effets palpables, des effets tangibles. Elle commence par des paroles ou par des formules, mais elle finit toujours par avoir des effets. En Genèse, chapitre 27, au verset 27, alors que Jacob avait devancé son frère Ésaü, il est venu voir son père et ce dernier a prononcé sur lui des paroles de bénédiction. Mais quand Ésaü se présente en quelque sorte devant son père Isaac pour solliciter sa bénédiction, Isaac lui répond au verset 33 donc, de Genèse 27, « J'ai mangé de tout ce que... Non, j'ai mangé de tout avant que tu ne viennes, pardon, et je l'ai béni. Ainsi sera-t-il béni par l'honneur de Jacob. Je l'ai béni, ainsi sera-t-il béni. » Alors, ce qui est étonnant dans ce récit, c'est que lorsque Ésaü demande à son père Isaac, « N'as-tu que cette bénédiction ? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. « N'as-tu que cette bénédiction ?» Ce qui étonne, c'est que les paroles, Isaac en avait encore dans sa bouche, les paroles. Il n'était pas devenu muet. Il avait encore les paroles dans sa bouche. Cependant, les paroles de bénédiction dans sa bouche, les paroles qui ont fait sorte un manteau spirituel, il n'en avait plus. Il dit, je l'ai béni. Ainsi, sera-t-il béni? Il n'y a plus de paroles de bénédiction dans ma bouche. J'ai parlé de l'exemple d'Abraham, quand j'ai dit que la bénédiction signifie appeler et attacher à la vie d'un homme ou un groupe d'hommes l'épanouissement et la maturité. Dans Ésaïe 51, au verset 2, en parlant d'Abraham, justement, Dieu dit, car lui seul, j'ai appelé, lui seul, je l'ai béni, et lui seul, je l'ai multiplié. Puisque la faveur est avec lui, il s'est multiplié. La bénédiction peut donc avoir un rayon d'action et de dimension. Toujours au sujet d'Abraham, Genèse 24, au verset 1, dit « Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. » En toutes choses. Il y a une version qui dit « dans tous les domaines ». Dans tous les domaines. La prière que Dieu nous bénisse aussi dans tous les domaines, pour que nous soyons en bénédiction aussi pour les autres. Que la bénédiction de Dieu touche aussi notre assemblée, que la bénédiction de Dieu touche notre santé physique, notre santé spirituelle. Que la bénédiction de Dieu touche les couples dans notre église. Que la bénédiction de Dieu touche la vie et les études de nos enfants. Que la bénédiction de Dieu touche nos familles ainsi que notre entourage. Que la bénédiction de Dieu se repose sur notre assemblée en abondance. Bref, nous voulons être bénis dans tous les domaines. Que nous puissions exceller en parole de connaissance, que nous puissions exceller à cause de la bénédiction de Dieu en vision, en songe, en prophétie, bref, selon tout ce que l'Esprit est disposé à nous accorder en termes de dons spirituels pour l'édification du corps du Christ.
Amen.
Bien aimé, dans 2 Samuel, au chapitre 6, la bénédiction s'est attachée à un homme qu'on appelle Obed-Edom, qui avait reçu chez lui l'arche de l'Alliance. 2 Samuel 6, verset 8, verset 11, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Même ceux qui venaient en visite dans sa maison recevaient leur part de bénédiction. La bénédiction a donc une dimension contagieuse en quelque sorte. Elle touche celui qui s'approche d'une personne que Dieu a béni. La bénédiction sous-entend toujours et toujours la présence de 2 acteurs, la présence de 2 agents, l'un visible, l'homme, et l'autre invisible, Dieu qui accomplit justement ce que nous ne pouvons pas faire, nous, en tant qu'hommes. Il est temps que notre Dieu se manifeste aussi en déversant sur nous ses bénédictions en abondance, que les gens voient que nous avons un Dieu qui est tout puissant. Lorsqu'Isaac arrive à Guérar, chez les Philistins, pour y séjourner, Genèse 26, la Bible déclare ceci au verset 12, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. C'est ce que j'ai nommé la fois dernière, la loi de cause à effet. Isaac a semé, il a fait sa part, il a mis en place les causes en quelque sorte, et Dieu de son côté a produit l'effet qui est de le bénir, car l'Éternel le bénit avec une récolte abondante. Il y a un acteur visible qui a travaillé, Isaac. Mais ce que les gens ignoraient, c'est qu'il y avait aussi un acteur invisible qui était avec lui et qui bénissait ses entreprises. Au point où, ensuite, il dit, cet homme, Isaac, devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait les troupeaux de menu bétail et les troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Le roi des Philistins, nommé Abimélec, jaloux donc d'Isaac, lui dit, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Va-t'en de chez nous. Tu es beaucoup plus puissant que nous. Le terme puissant dans ce contexte veut dire productif. Tu es beaucoup plus productif que nous. Va-t'en. Ce roi se disait, mais nous utilisons la même terre que lui. Nous utilisons les mêmes méthodes agricoles que lui. Nous utilisons les mêmes semences que lui. Nous recevons du ciel les mêmes pluies que lui. Alors, pourquoi sa récolte est toujours largement plus grande que la nôtre? Pourquoi? Ce qu'Abimélec ignorait, c'est la présence, je le disais, d'un agent invisible, mais tout puissant, l'Éternel des armées, aux côtés d'un acteur visible qui est Isaac. Que Dieu, dans son invisibilité, mais qui ne signifie pas absence, agisse aussi dans nos vies comme il l'a fait pour son serviteur Isaac. Notre Dieu s'est longtemps caché, non pas de son propre gré, non pas parce qu'il aime se cacher, mais à cause de notre attitude, nous voulons maintenant qu'il se manifeste. L'Éternel, il est temps que tu te manifestes. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 39, au verset 3, au sujet de Joseph, il est dit que son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Il est dit que Dieu nous bénisse abondamment aussi dans tout ce que nous entreprenons et que les gens voient que nous avons un Dieu. Dans Deutéronome, chapitre 8, versets 16 à 17, cependant, Dieu fait un avertissement au peuple qui est donc l'agent visible, comme pour lui dire, fais attention, n'oublie pas qu'il y a un agent invisible, c'est-à-dire que quand tu auras multiplié ton gros et ton menu bétail, quand tu auras la richesse, garde-toi de dire que c'est par tes propres efforts que tu les as acquis, que tu as acquis ces choses. Il dit, souviens-toi de l'Éternel, car c'est lui qui t'a donné la force pour les acquérir. C'est toi qui les acquiers, mais la force vient de Dieu, l'agent invisible. Bien-aimé, nous savons que le contraire de la bénédiction, c'est effectivement la malédiction. Et je disais dimanche passé que si la malédiction sans cause n'a pas d'effet, mais la bénédiction aussi sans cause n'a pas d'effet. Mais si la bénédiction, c'est le fait de porter un manteau, un vêtement spirituel qui condamne en quelque sorte à la réussite, la malédiction aussi, c'est d'avoir sur soi un vêtement spirituel, mais dans le sens négatif, qui condamne à l'échec, qui annule en quelque sorte les compétences, les aptitudes. Au psaume 109, verset 8, le roi David dit ceci, il dit au sujet de son ennemi ou de ses ennemis, qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Et il ajoute, que cette malédiction pénètre comme de l'eau dans son intérieur. Et qu'il ajoute que cette malédiction pénètre comme de l'huile dans ses os. Psaume 109, verset 18. L'une des finalités de la malédiction, c'est qu'elle vous apporte de la frustration. Deutéronome 28, verset 38 dit ceci, tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras malheureusement une faible récolte car les sauterelles la dévoreront. On a beau fournir des efforts, mais les résultats sont peu ou pas du tout au rendez-vous. Ça réduit la qualité et la quantité de tes résultats. Le nom de Jaébet, frère et sœur, veut dire douleur ou souffrance. Ce qui nous indique que c'était un homme de douleur, donc habitué à la souffrance. L'homme de douleur fait en quelque sorte un jeu de mots pour demander à Dieu de le garder de la douleur. Douleur rappelée et préfigurée par son nom. Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, est appelé dans Ésaïe 53, l'homme de douleur habitué à la souffrance. Et le verset 10 d'Ésaïe 53 dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Cependant, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Bien sûr, frères et sœurs, nous recherchons tous les bénéficiaires. Nous les désirons tous, nous souhaitons tous être bénis, pourquoi pas abondamment. Mais pour que Dieu puisse bénir, il faut que notre condition le permette. Dieu ne bénit pas à n'importe quelle condition. On ne peut pas, bien sûr, lui imposer ou lui ordonner de nous bénir. Nous le disons souvent, Seigneur, bénis-nous. Mais bien sûr, c'est un souhait louable et selon le désir que Dieu lui-même nourrit pour les siens. Mais demandons aussi, et demandons-le d'ailleurs très souvent, qu'il nous garde dans une disposition qui ne fasse obstacle à sa bénédiction. Ou qu'il produise une telle disposition en nous, si elle n'existe pas encore. À bénir, notre Dieu se plaît effectivement. Il désire bénir. Et il le désire même lorsqu'il nous fait passer par la douleur, par l'épreuve, par les circonstances douloureuses, comme il l'a fait pour le peuple d'Israël. Or, quel était son but final? C'est de faire du bien à la fin. Bénir. Et voilà que cet homme demande à être béni abondamment, Jaïbet. Le succès de Jaïbet, frère et sœur, a dépassé sa douleur du début de sa vie. Sa prière lui a permis de surmonter son nom, car Dieu a exaucé sa prière, il dit la fin du verset 10, et sa prière a changé le cours de son histoire. Seigneur, fais que ce soit un souhait de nos cœurs et que dans ta miséricorde, dans ta bonté, que tu puisses y répondre parce que nous sommes dans une condition qui ne constitue pas un obstacle à la bénédiction. N'oublions cependant pas, frères et sœurs, qu'il ne peut bénir que ce qu'il approuve. Jaïbet demande la bénédiction, mais derrière chaque bénédiction, frères et sœurs, se cache toujours une mission. Dieu fait toutes choses pour un but, nous dit la Bible. Quand Dieu te bénit, tu dois réaliser qu'il y a une mission pour laquelle Dieu t'a béni. Je pense que Jaïbet avait le profond désir de servir le Dieu de ses pères. Il ressentait cet appel du Dieu d'Israël monter dans son âme, monter dans son cœur. Vous voyez, Mardoché a rappelé à Esther que Dieu avait béni, qui sait si c'est pour des temps pareils que Dieu t'a béni pour devenir reine, mission. Or, qui dit bénédiction, dit aussi responsabilité. La bénédiction a son côté privilège, mais un privilège appelle toujours une responsabilité. Que Dieu veuille nous bénir et nous donner le discernement pour connaître ce pourquoi il nous a aussi bénis. En conclusion, bien-aimés, l'expression « si tu me bénis » nous rappelle que sans l'intervention de Dieu dans notre vie, nous ne pouvons rien faire pour nous-mêmes d'abord et encore moins pour lui. Rien. En dehors de sa présence, nous sommes dans l'incapacité d'agir correctement. C'est par sa bénédiction que nos actions produisent ou produiront des effets. Tout comme le succès de Jaïbet a dépassé sa douleur du début de sa vie, le succès évidemment de Jésus aussi après sa résurrection a dépassé de loin la douleur de la croix. Dieu l'a élevé, il l'a fait asseoir sur le trône. Esaïe l'avait prophétisé ainsi. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des âmes. Bien aimé, que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Amen.